Bonsoir. Nous sommes un jour, un mois, jour pour jour, après l'attaque d'Israël par des commandos du Hamas. Plus de 1400 personnes sont mortes, en majorité des civils, tuées ce jour-là par des commandos du Hamas, selon les autorités israéliennes. Le mouvement islamiste a aussi enlevé plus de 240 personnes. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens. Ces derniers sont privés de livraison d'eau, d'électricité et de nourriture par le siège imposé par Israël depuis le 9 octobre, alors que Gaza était déjà soumise à un blocus israélien depuis plus de 16 ans. L'armée israélienne a lancé une opération terrestre le 27 octobre dans la bande de Gaza. Elle a annoncé avoir encerclé Gaza, ville, et coupé le territoire en deux, annoncé hier et avant-hier. Le ministre israélien de la Défense justifie les destructions, notamment d'hôpitaux, en expliquant que ce sont des centres névralgiques pour les tunnels du Hamas. Au total, les bombardements israéliens ont fait plus de 10 000 morts, selon le Hamas, dont plus de 4 000 enfants et essentiellement des civils. Les Nations Unies, les ONG, les dirigeants du monde arabe et d'autres pays à travers le monde appellent sans cesse à un cessez-le-feu, une idée qui n'est pas soutenue par Washington, qui pousse à des pauses humanitaires et insiste sur le droit d'Israël à se défendre. Alors qu'Israël a retiré unilatéralement de Gaza en 2005 ses soldats et les colons après 38 ans d'occupation, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a affirmé que son pays prendrait, pour une durée indéterminée, je cite, « la responsabilité générale de la sécurité dans le territoire palestinien après-guerre ». C'était une déclaration d'hier. À la frontière israélo-libanaise, les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne d'une part et le Hezbollah et ses alliés, incluant le Hamas, de l'autre. Les violences se sont également multipliées en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, où plus de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, d'après l'autorité palestinienne. Nous avons évidemment changé le thème de notre mardi d'éthique publique en raison des événements. Nous nous sommes dit qu'à la lumière du passé et de l'actualité, il nous faut chercher à comprendre avec le cœur et la raison, le conflit entre le Hamas et Israël, et plus largement, les relations israélo-palestiniennes, pour tenter d'envisager ce que pourrait être un futur. Trois grands spécialistes ont répondu favorablement à notre invitation. Nous les en remercions très chaleureusement, et ils sont très complémentaires. Henri Laurence, vous êtes historien, vous avez été étudiant à Damas et enseigné au Caire et à Beyrouth, notamment. Vous avez été directeur scientifique de l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France, auteur d'une multitude d'ouvrages. Joseph Maïla, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, de l'islam et de la sociologie des conflits. Vous avez été notamment recteur de l'Institut catholique de Paris, directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères. Vous avez participé au dialogue islamo-chrétien organisé par le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et vous avez été candidat il y a 10 ans au poste de directeur général de l'UNESCO. Vous êtes membre du comité des rédactions de la revue Études, qui est partenaire de cette soirée, et actuellement professeur de géopolitique et de relations internationales à l'ESSEC. Dominique Moisy, vous êtes géopolitologue et spécialiste en relations internationales, évidemment. Vous avez participé à la création de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, dont vous avez été vice-directeur. Et vous avez rejoint l'Institut Montaigne, dont vous êtes conseiller spécial. Vous êtes chroniqueur aux Échos, ça je le sais, à West France, je pense encore maintenant, et malheureusement pas à La Croix. Et nous avons aussi deux étudiants, Théophile Desarmeaux et Étienne Deforge, qui vous interrogeront tout à l'heure, vous poseront des questions tout à l'heure. Je vais commencer par vous, Henri Laurence. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui explique l'attaque du Hamas? Collez bien le micro contre votre, quand votre...
Je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas membre du comité central du Hamas, donc j'ai beaucoup de difficultés.
Collez le micro contre eux, voilà.
Beaucoup de difficultés à vous répondre précisément, donc on peut simplement faire quelques conjectures. D'abord, le Hamas était en perte de vitesse dans la bande de Gaza. Les sondages jusqu'à la veille montraient une forte impopularité.
Calez-le comme ça, mettez-le comme ça et comme ça, ça.
Donc une forte impopularité du Hamas dans la bande de Gaza. Les Israéliens essayaient de faire du Hamas quelque chose qu'on pourrait dire le gestionnaire de la bande de Gaza, comme finalement le Fatah était devenu, l'autorité palestinienne était devenue pour la Cisjordanie. D'autres facteurs certainement. Chose très importante quand on connaît les Palestiniens, c'est les prisonniers. Donc prendre des otages pour faire un échange avec les prisonniers, ça touche l'intégralité de la population palestinienne, parce qu'il y a presque pratiquement toute famille ont des prisonniers. Donc ça, c'est des choses évidentes. Au-delà, c'est plus difficile à savoir, probablement jeter... provoquer un clash énorme pour remettre le dossier palestinien sur sa centralité, ça c'est certain. Offrir à ses alliés politiques, disons l'axe Hezbollah, Iran, une possibilité de s'exprimer dans la mesure où le grand gagnant actuellement de la crise sur le plan géopolitique, c'est la Chine, l'Iran et la Russie. Et les Occidentaux sont complètement déconsidérés sur le plan régional. Donc ça, tout ça, ce sont des conjectures, que j'essaye de faire, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'ils voulaient.
Je ne sais pas, Ella, comment est-ce que vous attaquez, que vous expliquez l'attaque du Hamas et le... Et quels sont les risques de d'extension du conflit?
Oui, merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors moi j'étais parti effectivement sur une question sur l'extension du conflit. Les protagonistes ne sont pas encore campés puisque il y a d'une part les Palestiniens, le Hamas dont a parlé Henri, et puis les Israéliens ou le côté israélien donc dont va parler Dominique. Moi je viens au milieu pour vous dire que le conflit qui est déjà campé, bien qu'on ne soit pas entré dans les détails, a des chances de s'étendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis cette attaque du 7 octobre qui était bien entendu ce que nous appelons en termes de stratégie une surprise stratégique. Rien ne l'a laissé penser, bien que, c'est toujours a posteriori, c'est le regard des historiens qui va reconstruire la chaîne des causalités, à Beyrouth, précisément, puisqu'on va parler du Liban et du Hezbollah, se soit tenu pendant depuis 3 ou 4 mois des réunions auxquelles participait le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abdollahian, et on parlait de plus en plus d'un concept nouveau qui était l'unité des fronts. Donc il s'agissait de continuer la lutte contre Israël. La lutte contre Israël continuait en Cisjordanie de manière larvée, mais continue, si j'ose dire. Le front de Gaza était étrangement calme, et c'est là peut-être aussi une manière de camoufler ou de ne pas prévenir. C'est pour ça qu'on n'a pas vu venir, que les services de renseignement n'ont pas vu venir grand-chose, même les Américains. Et bien entendu, à commencer par les services de renseignement israéliens. Et se préparer donc cette attaque qui devait faire sortir le Hamas de son enclave de Gaza, puisque vous savez, Gaza est une enclave qui est bloquée, qui est soumise à blocus depuis 2007, à la fois par Israël et on l'oublie souvent aussi par l'Égypte. Donc c'était un territoire qui était verrouillé. Ça n'empêchait pas, bien entendu, des opérations qui se sont succédés depuis 2009, plomb endurci, 2012 aussi, il y a eu une guerre qui a fait 1300 morts, pilier de la défense, ensuite il y a eu 2014 et 2015 qu'on a appelé la guerre des couteaux. Donc ça n'arrêtait pas dans cette région du monde, mais bien entendu en relation avec d'autres fronts, puisqu'on va parler d'une unité des fronts. Ça n'a été, Gaza ne s'est jamais calmé, si j'ose dire. Et bien entendu, pendant tout ce temps-là, le Hamas avait mis ce temps à profit, si j'ose dire, puisqu'il avait construit ce système de 10 tons, de 500 kilomètres de souterrain dans lequel il s'était terré et dans lequel il avait véritablement amassé un arsenal assez impressionnant, puisqu'au 31e jour, vous voyez toujours des roquettes qui sont en train d'être tirées. Donc à un moment donné, le Hamas sort en quelque sorte de ce sommeil stratégique ou tactique plutôt, et attaque le 7 octobre. Ce qui s'est passé avant laisse donner à penser qu'il y avait quelques prémices. Les accords d'Abraham qui avaient été signés en 2020, qui mettaient en quelque sorte le processus de paix qui le ramenait dans la région, mais sans les Palestiniens. Le 20 septembre, Mohammed Ben Salman disait, bah, écoutez, moi j'ai aucun
droit d'Arabie Saoudite.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite disait qu'il normaliserait ses relations avec Israël, qu'elles avançaient tous les jours un petit peu. Le 21, et Henri, c'est là où je me livre à une conjecture, comme tu dirais, à une hypothèse. Le 21, Mohammed Ben Salman demande à son ambassadeur en Jordanie de le représenter auprès de l'autorité palestinienne. Et l'autorité palestinienne, c'est Mahmoud Abbas qui est installé à Ramallah. Alors, est-ce que, hypothèse, point d'interrogation, est-ce que le Hamas a vu sa marginalisation en train d'être opérée, le rapprochement de l'Arabie Saoudite avec les Israéliens, laissé pour compte dans cette affaire? Est-ce qu'il n'a pas tenté à la demande, je n'en sais rien, autre hypothèse, puisqu'on est réduit à faire des hypothèses, à la demande des Iraniens de dérailler, en quelque sorte, de faire dérailler le processus de paix ou de rapprochement qui s'établissait. Bref, cette surprise stratégique survient donc le 7 octobre et de manière horrible. Elle fait 1400 morts en une journée, ce qui est quand même assez horrible comme bilan, et de la manière la plus atroce. Alors, qu'est-ce qu'on craint maintenant? Que le front de Gaza s'est enflammé et que les Israéliens, l'armée El Sahal, est arrivée à pénétrer il y a 2 jours dans le centre de Gaza, à couper Gaza en deux, avec les 1000 morts et plus de 1000 morts dont vous parliez, 10 000 morts, pardon, de l'opération menée par Tsahal, selon, encore une fois, les dires de Hamas. Donc il faut tout prendre avec des pincettes. On craint maintenant une extension du conflit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une extension du conflit? Le conflit palestinien n'a jamais été un conflit isolé. Il est relié par tous ses ports et par toutes ses dimensions à des questions régionales, à des questions internationales. Il mobilise. C'est un conflit dont la charge symbolique est énorme. Il parle aux chrétiens, il parle beaucoup aux musulmans, il parle aux Israéliens, bien entendu, en premier lieu, mais il parle aux Juifs aussi de la diaspora. Donc c'est un conflit qui ne laisse personne indifférent. Mais il se fait que depuis quelques années, Israël se trouve dans une situation stratégique assez compliquée. Le front de Gaza s'est ouvert, mais avant il y a un front ouvert, qui est celui de la Cisjordanie, où tous les jours il se passe quelque chose, et ce depuis 2009, hein, pour remonter jusqu'au trouver un fil de continuité. Nous sommes en 2023, ça n'a jamais cessé. Donc il y a un second front qui est ouvert, qui est le front de la Cisjordanie. Alors la Cisjordanie inclut Jérusalem, pas pour Israël qui l'a annexé, Jérusalem Est en tout cas, mais pour les Palestiniens c'est un front en soi. Le troisième front qui risque de s'ouvrir, et c'est celui-là dont je suis censé parler, c'est le front libanais. Et le Liban est un État en déliquescence, il n'y a pas de président de la République. Bientôt, le chef de l'armée partira à la retraite, et donc il n'y aura pas de président de la République, ni de conseil des ministres pour le nommer. Donc, grand point d'interrogation, va-t-on véritablement vers une disparition de l'armée libanaise? Elle ne disparaîtra pas, mais disons, une armée sans chef, je ne sais pas d'où elle peut prendre ses ordres et comment elle peut agir. Donc celui qui agit en lieu et place, c'est le Hezbollah, qui est une organisation dont le chef est connu, c'est M. Nasrallah, qui a fait un discours enflammé et en même temps très calme, enflammé du point de vue de la rhétorique et du verbe vendredi dernier, et très calme puisqu'il a dit que véritablement il n'y aurait pas pour le moment une escalade et qu'on ne va pas ouvrir de front. Alors qu'il avait dit dans des discours antérieurs que si les Israéliens, le 8 octobre, que si les Israéliens entraient à Gaza, il entrerait. Et puis là, sortit un concept assez nouveau pour tous ceux qui trouvent des justificatifs, des légitimations ou des prétextes. Il a dit, oui, nous sommes un front, mais nous sommes un front de soutien. Nous ne sommes pas un front actif. Mais tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes, et nous allons, à un moment donné, quand nous le déciderons, entrer. Pourquoi le Hezbollah s'est calmé subitement après avoir tenu des discours enflammés? Parce que le Hezbollah tient le Liban, qu'il a tout à perdre dans une aventure, surtout quand il voit ce qui est arrivé à Gaza, qui serait véritablement désastreuse pour lui sur le plan de la dégradation de ses capacités militaires, des destructions civiles aussi. Et donc, il réfléchit, mais pour moi, je parle encore sous le contrôle de mes deux amis ici, parce que l'Iran n'a pas décidé de sacrifier un outil formidable qui est le Hezbollah. Si le Hamas est estimé à 15 000 roquettes, le Hezbollah est estimé à 150 000. Donc la puissance de feu est absolument incroyable avec des missiles qui sont guidés. Donc de ce point de vue, il prend son temps. Est-ce que l'Iran peut se départir comme ça dans un conflit dont Gaza est l'enjeu, sacrifier un outil, un instrument de premier ordre? Le Hezbollah, d'après toutes les considérations stratégiques que nous faisons, est considéré comme l'ultime argument, l'ultima ratio de la rationalité iranienne. C'est dans le cas où l'Iran nucléaire est attaqué par Israël, à ce moment-là, le Hezbollah entrera en jeu. Je vous rappelle qu'il est à la frontière du Liban. Il n'y a pas un mètre qui le sépare de la frontière. Donc il est installé à la frontière. Et de là, il a dit souvent, Haïfa, qui est le grand port dans lequel sont stockés l'essence et toute l'énergie liquide et gazeuse d'Israël, en grande partie, les aérodromes, la centrale nucléaire de Dimona, d'après le Hezbollah, tout ça est à portée de ces canons, de ces missiles. Donc, troisième front, le front libanais. Quid, point d'interrogation, on pourra en discuter par la suite. Quatrième front, le Hezbollah le faisait remarquer, il y a la Syrie et l'Irak. La Syrie et l'Irak, en Syrie on l'a peut-être oublié, il y a encore des troupes américaines. En Irak il y en a, et depuis que le conflit a commencé, les Syriens, les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak se sont acharnées sur les bases américaines, ce qui a valu un avertissement très fort du CENTCOM, du CENTCOM, c'est-à-dire du commandement américain au Moyen-Orient, disant « si vous continuez, nous allons attaquer ». Quatrième. Cinquième front, beaucoup plus lointain, qui est à 1200 km de là, le Yémen, où se trouvent les Houthis, qui sont les chiites du Yémen, si l'on peut dire. Il y aurait beaucoup à dire, parler sur la religion des Houthis ou des Yéménites du Nord, mais disons qu'ils sont très proches aujourd'hui de l'Iran et qu'ils ont essayé de faire partir deux missiles qui étaient supposés atteindre le port d'Eilat sur la mer Rouge et qui ont été dissuadés par les Américains.
Détruits par les Américains, c'est
ça ? Détruits par les Américains. Pas dissuadés, vous avez raison, détruits en vol. Neutralisés, comme on dit aujourd'hui, par les Américains. Et c'est là où arrive la sixième donne. Est-ce que c'est un front? Je ne dirais pas que c'est un front. Il y a au large du Liban et au large d'Israël une flotte qui est composée de 73 navires de guerre américains. Je dis bien 73. Dont deux porte-avions, dont l'un, le Dwight D. Eisenhower, est le plus grand du monde, avec des troupes embarquées de l'ordre de 2600 soldats. C'est le Gerald Ford qui est le plus grand, suivi par le Dwight Eisenhower. deux immenses porte-avions, et vient de les rejoindre un sous-marin qui est parti de Norfolk, qui est arrivé à Gibraltar, un sous-marin de type Ohio, et Ohio c'est le grand calibre des sous-marins américains. Il y a aussi ce qu'on ignore, ce que l'information dans les médias et dans les journaux ne dit pas, une flotte de l'OTAN. Nous avons deux navires hôpitaux, mais certainement nous avons des corvettes qui les escortent. Donc une trentaine de navires qui appartiennent à l'OTAN et qui sont en manœuvre. Alors pour le moment, le commandement maritime de l'OTAN est aux Turcs, mais à la fin de l'année, il passe aux Italiens. Et donc voilà l'argument massue qui dissuade tout le monde. Pourquoi les Américains sont-ils là? On en discutera pour trois raisons très rapides. Un, protéger Israël. Et effectivement, c'est un dôme de fer gigantesque qui est là et qui peut effectivement, dans le cas où s'ouvriraient tous les fronts et que toutes les patriotes, les dômes de fer seraient véritablement saturés, à ce moment-là, la flotte américaine pourrait neutraliser en vol des missiles autrement plus importants que les roquettes du Hamas. Deuxièmement, ils sont là pour empêcher l'Iran d'entrer dans le jeu. Parce que l'Iran pourrait être tenté de partir, de venir au secours du Hezbollah, du Hamas, des Houthis, du Hezbollah irakien, si jamais ils étaient bombardés. Et troisièmement, on peut se poser la question de savoir si à l'occasion de cette crise énorme de Gaza, il n'y aurait pas aussi un moyen pour les Américains de revenir, ils sont revenus à toute vitesse au Moyen-Orient, alors que le président Obama, dans les années 2013-2014, avait signalé ce qu'on appelle la stratégie du pivot. Les Américains pivotent, ils ne regardent plus vers le Proche-Orient, mais ils regardent vers la Chine. Et là, à toute vitesse, ils sont revenus, d'autant plus que la Russie est présente, mais on n'a pas le temps de parler, je vais m'arrêter là, et que la Chine est présente, et on n'a pas le temps d'en parler, mais on en parlera. Voilà, très rapidement.
Merci beaucoup. Dominique Moïsi, qu'est-ce qui explique l'intensité de la réplique d'Israël? Caler le bien comme ça.
Alors, plusieurs réponse potentielle à cette question. Une, de bon sens, si j'ose dire, n'importe quel pays qui aurait eu 1400 de ses citoyens massacrés dans des conditions abominables en une seule journée aurait réagi de manière forte. Donc c'est, si j'ose dire, une sorte de logique de situation. Alors, la deuxième explication, c'est que ce massacre se situe dans le contexte d'une mémoire historique, culturelle, d'un traumatisme. Il est vécu comme une sorte de gigantesque pogrom, comme le retour d'un passé que l'État d'Israël avait précisément pour mission de rendre impossible. En 1905, après un pogrom à Kishinev, dans l'Empire russe à l'époque, qui fait juste 50 morts, un grand poète yiddish, Bialik, écrit un poème qui s'appelle « Le massacre des innocents ». Et ce poème a un énorme retentissement. il est publié au moment de l'affaire Dreyfus en France. Et il y a dans ce poème comme une sorte de justification supplémentaire à l'idée que seul un État juif pourra protéger les Juifs. Alors, je suis parfaitement conscient du caractère singulier de cette interprétation. Mais je crois qu'il est important, en particulier dans ce lieu, d'en prendre conscience. En 2000, j'ai reçu une sorte de prix pour la paix que j'ai partagé avec un grand intellectuel palestinien du nom de Sari Nusseibeh. Et ce prix nous a été remis au Parlement européen. Et Sari Nusseibeh, dans son discours de réception, a raconté l'histoire que lui contait sa mère quand il était petit garçon pour lui expliquer la nature du conflit israélo-palestinien. Et elle lui disait cela. Donc, maman Nusseibeh, je marche dans les rues de mon village. Et au-dessus de moi, une fenêtre s'ouvre. Un corps est précipité violemment de cette fenêtre et m'écrase. La fenêtre qui s'ouvre, c'est celle de l'Europe. Celui qui pousse la personne, c'est l'Européen. Celui qui tombe en écrasant le Palestinien, c'est le Juif, devenant au moment même Israélien. Et je crois que si on va au fond du fond, cette histoire contient l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a dans la guerre à Gaza aujourd'hui un maximum d'affect possible, très supérieur à la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Au fond, ce que traduit la guerre à Gaza, c'est le conflit entre Européens eux-mêmes quant à l'interprétation. C'est un problème de l'Occident avec lui-même. Et c'est un problème de l'Occident avec les pays du Sud et plus globalement avec le reste du monde. D'ailleurs, on le voit bien, il y a une sorte de divorce émotionnel sur la question de ce conflit. Entre les pays du Sud qui disent « Mais voilà, deux poids, deux mesures, vous permettez à Israël, parce que c'est un pays occidental, parce que les morts du 7 octobre ont un poids plus grand à vos yeux que tous ceux, bien plus nombreux, qui viennent après, des choses, entre guillemets, que vous n'auriez permis à personne d'autre. » Et je crois que pour nous, il est essentiel de comprendre où se situe ce moment que nous vivons. Alors c'est là où il faut venir à la question des interprétations. Pourquoi le 7 octobre ? Alors je pense que la date est hautement symbolique. 50 ans, presque jour pour jour, après le début de la guerre du Kippour, après une première surprise stratégique pour Israël, après une première manifestation d'hubris de la part des Israéliens. Jamais, disait-il en 73, les Égyptiens n'oseront traverser le canal. Jamais, disait-il en 2023, le Hamas n'osera sortir de cette prison à ciel ouvert qui était devenue Gaza. Alors, cette opération a mis un temps très long à être préparée. Et on voit des films, un film en tout cas, qui est passé sur Russia Today, la télévision russe. Un journaliste a eu accès au tunnel de Gaza. On voit leur profondeur, à certains endroits, plus de 60 mètres. On voit leur complexité. Et il y a, devant la caméra, un combattant, bien évidemment masqué, enturbanné, qui dit « Nous préparons la grande bataille, la grande intervention ». Donc, les Israéliens, bien évidemment, savaient que ces images existaient. Ils les avaient regardées. Et quelque part, ils ne les ont pas crues. Et l'histoire démontrera un jour qui est le premier responsable de cette hubris. On peut penser que le plus responsable est celui qui a le plus longtemps nié sa responsabilité, c'est-à-dire le Premier ministre Netanyahou lui-même. Alors, quand les Israéliens disent « c'est une question de survie, nous devons éliminer la branche armée du Hamas », ils le pensent très sincèrement et très majoritairement. Même les Israéliens de gauche qui ont été massacrés au sud du pays par le Hamas. Parce que dans leur esprit, il n'y a pas d'autre solution militaire. Et le Hamas, très ouvertement, a choisi d'utiliser la population de Gaza comme un bouclier humain. Alors, si on se place au niveau du droit international, on a tendance aujourd'hui à dire, aujourd'hui 7 octobre 2023, non, 7 novembre 2023, que ce qui a été commis le 7 octobre appartient à la définition d'un crime contre l'humanité. Ce qui s'est passé depuis, des deux côtés, appartient à la définition de crime de guerre. Utilisation systématique de civils comme bouclier humain, attaque disproportionnée de civils. Je crois qu'on en est là. Alors maintenant, il y a une autre dimension qui me paraît fondamentale, qui consiste à dire il faut lutter contre le Hamas avec toutes les forces possibles et imposer une solution à deux États avec toute l'énergie possible. Et il y a un lien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution possible tant que le Hamas est là pour bloquer. Il ne veut pas une solution à deux États. Il veut la fin de l'État d'Israël. Donc il est, objectivement, un obstacle à la paix. Mais l'évolution politique d'Israël, au cours des dernières décennies, a été catastrophique. Les assassins de Rabin en 95, leurs héritiers idéologiques, se trouvent au pouvoir en Israël aujourd'hui. Et c'est une dimension que, bien entendu, on ne peut pas évacuer. L'Israël qui a été victime de cette attaque monstrueuse est l'Israël le plus sécuritaire, le plus extrémiste dans l'histoire de tout le pays depuis 75 ans, depuis 48 en fait. Donc
C'est ça, cette double réalité. Et en écoutant mon ami Joseph, j'étais tenté de rajouter un petit point dans la complexité. Il semble que les Saoudiens ont utilisé leurs propres missiles pour détruire les missiles outils qui étaient dirigés vers Israël. Et donc, en réalité, dans ce conflit multiple, d'une extraordinaire complexité, il n'y a pas seulement l'Occident contre les pays du Sud, mais il y a l'Arabie Saoudite contre l'Iran. L'Arabie Saoudite, pour des raisons qui lui sont propres, choisit la paix. L'Iran, pour des raisons qui lui sont propres, veut le désordre. Et donc il y a une sorte d'enjeu considérable avec la Russie et la Chine qui soutiennent de facto l'Iran, les États-Unis et l'Union européenne qui soutiennent ouvertement l'Arabie saoudite. Et un acteur particulier, la Turquie, qui appartient techniquement à l'Occident, elle est membre de l'OTAN, elle dirige même la flotte de l'OTAN en Méditerranée en ce moment, mais pour des raisons qui tiennent à la subtilité de la tradition diplomatique ottomane et au jeu de pouvoir de Erdogan, elle a une position bien à part. Voilà, je pense avoir répondu à ma manière à votre question.
Merci. Je vais passer la parole à l'un des deux étudiants.
Oui, un grand merci pour ces éclairages. En vous entendant les uns puis les autres décrire les différents acteurs du conflit, puis aussi l'histoire. Vous avez dit ça fait un mois, et puis ça fait aussi 75 ans. Ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs ne réfléchissent pas du tout avec les mêmes termes temporels. J'essaie d'être plus explicite. Le Hamas, dans la façon dont il communique, on peut dire son horizon est apocalyptique. Le but à terme, c'est la destruction d'Israël, l'éradication de sa population. Mais ses alliés ne réfléchissent pas du tout sur les mêmes termes temporels. Vous soulignez tout à l'heure l'instabilité au Liban. Sans doute, l'Iran a ses propres dynamiques internes politiques. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de réfléchir avec un même horizon temporel. Et puis, en face, côté israélien, il y a aussi un rythme qui est très différent. Déjà parce qu'il y a des élections, régulièrement. Que sans doute, Benjamin Netanyahou et sa garde rapprochée ont aussi regardent vers l'avenir en disant... Après toutes ces années au pouvoir, on ne peut pas se permettre que ce soit cela notre héritage, ou avec uniquement ceci dont on se souvient de nous. Et puis, à long terme aussi, une forme de remise en cause du projet de l'État d'Israël, avec l'État d'Israël pas seulement comme entité politique, mais comme symbole d'un judaïsme qui serait moins menacé, de juifs qui seraient en sécurité. Et donc aussi, l'horizon long de Israël est très remis en cause, il me semble. Voilà. Donc je me demandais comment, de chaque côté, le fait qu'il y ait à la fois des choses avec des temps courts, donc le Liban ou les élections d'Israël, et puis des acteurs qui ont des perspectives de temps très très longs, comment ça, à l'intérieur de chaque camp, comment les décisions rentrent en conflit? Comment Hamas, qui pense sur des durées de décennies peut-être, reçoit des ordres de l'Iran qui pense pas seulement en termes de décennies?
Qui veut essayer de répondre à cette question complexe?
Bon, il me semble d'abord que le Hamas n'est pas apocalyptique. C'est pas l'État islamique. L'État islamique est un apocalyptique. C'est un mouvement qui s'est défini comme un mouvement de libération nationale dans un espace précis. Et dans une temporalité précise. tandis que l'État islamique, lui, il voulait s'étendre à l'ensemble du monde et annoncer la fin des temps. Donc, c'est des dimensions totalement différentes. Il est évident que la plus grande partie des Israéliens souhaiterait que les Palestiniens n'existent pas, et non moins que la plus grande partie des Palestiniens souhaiterait que les Israéliens n'existent pas. Ça, c'est une évidence absolue. Le Hamas a fait des ouvertures il y a quelques années en les réarticulant en langage islamique, puisque dans le droit musulman, vous avez la notion de monde de la paix, qui est l'islam, la terre de l'islam, monde de la guerre, qui sont les non-musulmans, mais il y a la possibilité entre les deux de faire de la trêve. Et alors la trêve ne peut pas être indéfinie, mais elle peut être définie sur plusieurs dizaines d'années. Encore plus, c'est donc il y avait des propositions du Hamas d'étendre à Israël le monde de la trêve à condition qu'il y avait évacuation des territoires occupés. Bon, ça n'intéressait pas Israël de toute façon, mais ça veut dire que ce n'est pas nécessairement la destruction de l'État d'Israël qui était le programme du Hamas. Ou si vous voulez, pour eux, c'est plutôt la libération de la Palestine. Chose différente. Malgré tout, donc il y a ces questions de temporalité qui n'est pas la même. C'est moi, je pense profondément que le Hamas s'inspire beaucoup du FLN algérien et moins de l'islam en tant que tel. Quand ils vous répondront pour les massacres abominables, bien évidemment, ils vous répondront ce que disait le FLN quand il massacrait les colons français en Algérie. Ils disaient, où sont mes avions, où sont mes porte-avions, où sont mes tanks? Et c'est ce type de justification que le FLN faisait dans la guerre d'Algérie, qui est la même justification que le Hamas fait pour les massacres abominables qui ont été commis. Voilà. Alors par ailleurs, je suis totalement d'accord avec mes amis. Ce qui est en jeu au-delà des dimensions territoriales, c'est le projet sioniste lui-même. En tant que, dès le départ, que normalisation du peuple juif, il n'a pas. Israël n'a jamais réussi à normaliser le peuple juif parce qu'il a besoin d'une exceptionnalité juive. C'est là la contradiction. Si vous faites des sanctions économiques ou autres sur le Venezuela, sur l'Iran, je ne sais pas, sur l'Azerbaïdjan, ce que vous voulez, vous faites des sanctions qui sont définies comme politiques. Si vous faites des sanctions contre Israël, immédiatement, vous êtes traité d'antisémite et de raciste. Pourquoi? Parce qu'il y a une exceptionnalité de l'État d'Israël. Et cette exceptionnalité de l'État d'Israël, elle s'est reflétée, elle s'est étendue aux Palestiniens. Parce que après tout, bon, 1700 morts, ou 1400, plus les 10 000 là, c'est quoi ça? Par rapport au Soudan, où il y a eu probablement 100 ou 200 000 morts dans le même temps. Qu'est-ce que c'est par rapport au Yémen, où il y a eu 200 ou 300 000 morts, par rapport à la Syrie, où il y a eu 500 000 morts, ou par rapport au Karabakh, où la population arménienne a été chassée? C'est pas énorme. Pourquoi nous faisons un débat ici, non pas sur le Soudan ou sur le Karabakh? C'est parce que nous sommes dans une situation d'exceptionnalité. Et cette exceptionnalité, c'est nous-mêmes qui la vivons et qui la produisons. Mais elle est aussi reprise, cette exceptionnalité, au Sud. Il suffit d'ouvrir, même si vous ne comprenez pas l'arabe, mettez-vous sur le site de Jazeera et vous verrez les images que Jazeera sort à haute dose de la bande de Gaza, entre autres choses parce que ce sont les seuls qui sont dans la bande de Gaza. Donc c'est les seuls qui peuvent produire vraiment des images. Et on a aussi dans le jeu des victimes. Je vais essayer de définir depuis longtemps que, disons depuis aux alentours de 1980, on était basculé dans un paradigme de la victime qui avait remplacé celui du combattant. Et donc dans le paradigme de la victime, on ne montre pas ce qu'on tue aux autres, mais ce qu'ils ont tué chez nous. Et la victime absolue, c'est l'enfant. Et je disais, bien avant les événements d'aujourd'hui, que quand on est dans le monde de la concurrence des victimes, c'est l'obscénité de produire des cadavres d'enfants au jeu, si j'ose dire. Et on l'a, ça, depuis le 7 octobre. Et c'est aussi cette inscription dans ce paradigme de la victime qui fait que nous nous réunissons ce soir-là et pas sur un autre sujet.
Dominique ?
Oui, un point. La comparaison, Henri, avec l'Algérie et le FNL, le FLN. Au moment 7 octobre, il y a un membre du Hamas qui se filme. Et on voit ce film et on entend ce qu'il dit. « Papa, tu vas être fier de moi, j'ai tué 10 Juifs. » Il ne dit pas « j'ai tué 10 Israéliens », il dit « j'ai tué 10 Juifs ». Et il me semble que c'est quand même une différence assez significative avec la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que je ne crois pas, mais je peux me tromper, que les combattants du FLN aient dit « je viens de tuer 10 infidèles ». Ils ont tué 10 colonisateurs français. Mais il n'y a pas cette dimension. Ce qui m'amène à revenir à votre question et la question la plus fondamentale en réalité que pose Henri, c'est-à-dire la justification du projet sioniste. Je me souviens, au moment de la deuxième intifada, je participais à la conférence des ambassadeurs et j'avais posé une question un peu provocatrice à un ambassadeur de France au sommet et je lui disais, mais au fond, qu'est-ce que tu préfères ? Avoir tous les spécialistes de high-tech israéliens en Europe pour rendre des chances à l'Europe dans la compétition avec les États-Unis, parce que dans le domaine de la nouvelle économie, ils sont incomparables, ou tu préfères qu'ils restent en Israël ? Et d'ailleurs, sa réponse avait été très claire. Non, non, je les veux en Europe, parce que l'Europe en a besoin. Mais, alors là, je vais devenir très... Je pense que cette histoire est importante, parce que sinon, on ne comprend rien. Je vais vous citer les propos de ma petite fille, qui a 7 ans. Alors, mon fils a épousé une Libanaise chrétienne maronite. Tabette. Et donc, elle a une identité, cette petite fille complexe, et son père lui dit, bah, écoute, tu es juif par ton père, tu es chrétienne par ta mère. Alors, à 7 ans, c'est quand même un peu compliqué. Mais elle a eu une sorte de réaction spontanée. Je veux pas être juive. Parce que être juif, c'est avoir peur. Et d'où vient cette réaction? C'est tout à fait surprenant, si j'ose dire. Parce que aucun de ses parents, et encore moins de ses grands-parents, n'a pu lui donner ce message. Mais en réalité, on va au cœur du cœur, là. C'est-à-dire que moi, je suis fils de survivants d'Auschwitz, mais je suis fils aussi de quelqu'un qui s'était converti au catholicisme bien avant ma naissance. Et donc, je suis improbable. Compliqué. Et il était évident pour moi que je devais rester juif après la Shoah, parce que je ne pouvais pas faire ce cadeau à Hitler alors que mon père avait survécu. Et donc je crois que dans la psyché juive, il y a cette question de survie. Et c'est ainsi que se pose le rapport à Israël. Israël, c'était jusqu'au 7 octobre 2023 le refuge absolu. Si l'antisémitisme revenait, et il revient, on n'a pas très envie d'aller là-bas, c'est pas notre langue, c'est pas notre culture, c'est pas notre climat, mais on peut y avoir accès. Et depuis le 7 octobre, cette dimension a disparu en réalité. Et donc dans la communauté juive, tout le monde se dit, peut-être finalement la Suisse, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus près, etc. Il y a des lacs, c'est bien, c'est confortable, etc. Mais je crois que si vous n'intégrez pas cette dimension, il vous manque un élément d'interprétation. Et c'est en ce sens que je comprends ce que dit Henri. Je l'entends. Je l'accepte et le respecte. Mais il passe, me semble-t-il, à côté de quelque chose d'essentiel qui est que la comparaison entre la France et les mouvements de libération nationale en Algérie et la situation en Israël, on dirait en anglais « it does not fit completely ». Ça ne recouvre pas, c'est d'une autre nature. Et si on n'accepte pas que c'est d'une autre nature, alors je ne crois pas qu'on puisse arriver à la vérité. Et il est bien évident qu'il n'y a pas dans mon propos la moindre justification de la politique menée par le gouvernement d'Israël, que je trouve criminelle, suicidaire, stupide et indigne des valeurs juives. Mais il faut aller au-delà des dirigeants et chercher toujours, chez n'importe quel peuple, le meilleur de ce qu'il peut donner.
Henri, la réponse, oui.
Je serai bref, donc je vais être long. Dominique, je suis intégralement d'accord avec toi. Je dis simplement, si tu changes d'axe, de point de vue,
mettez bien le micro contre l'autre.
Si les Palestiniens avaient été colonisés par les Poldèves, ils seraient anti-Poldèves. S'ils avaient été colonisés par des Sildaves, ils seraient anti-Sildaves. S'ils avaient été colonisés par des Bordures, ils seraient anti-Bordures. C'est ça que je veux dire.
Lecteur de Tintin, la Sildavie. Voilà. Le sceptre d'autocar.
Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et là où tu entres au centre, c'est la difficulté même du concept de peuple juif. Parce que d'un côté, tu peux parfaitement admettre qu'il y a une communauté de destin entre les différentes communautés juives dans le monde, même si beaucoup antérieurs de ces communautés se détestent entre eux, entre religieux, laïcs, ceci.
Oui. Mettez le micro contre votre... Voilà. Et puis vous bougez avec quand vous tournez la tête, comme ça.
Donc, si tu veux, c'est ça que je veux dire.
On ne t'entend pas. Il faut vraiment que tu mettes le micro sur la bouche.
Voilà. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour les Palestiniens, ceux qui les colonisent sont des Juifs. Ce n'est pas des Poldèves ou des Sildaves. Donc, quand il dit « on a tué des Juifs », c'est parce qu'ils sont colonisés par des Juifs, c'est tout. Ils y voient pas une dimension religieuse particulière. Même au contraire, au début, les frères musulmans, et ça reprenait même un discours qu'on avait chez Rachid Ridar, donc c'est au début du XXe siècle, qui était de dire, regardez les Juifs qui viennent en Palestine, ils réussissent parce qu'ils obéissent à leur religion. Et donc l'exemple juif était l'exemple d'une bonne pratique efficace de la religion. Et les frères musulmans, pas maintenant, mais dans les années 50, disaient, l'Israël a réussi parce que les Juifs respectent et appliquent leur religion. Donc si nous voulons réussir, il faut qu'on applique et respecte notre religion. Non, mais pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on est dans une conflagration entre une région du monde et une autre. Entre l'Occident en général, entre l'Europe centrale et orientale, puisque c'était le foyer du sionisme, et le Proche-Orient. Alors avec toutes les ambiguïtés historiques, parce qu'une partie de ce Proche-Orient faisait partie de l'Empire ottoman, qui était quand même aussi balkanique, etc. Mais bon, pour simplifier les choses, Si on prend l'idée que, pour les Palestiniens, ils sont face à une colonisation de peuplement, c'est-à-dire une colonisation de refoulement, ce qui historiquement est vrai, parce qu'ils sont refoulés, et qu'on est surtout, et c'est ça qui est l'axe central du drame, c'est qu'on est dans un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si l'un progresse, il ne progresse qu'au détriment de l'autre. Si l'un a 45 et l'autre 55, si celui qui a 45 passe à 46, ça implique que l'autre passe à 54. C'est un jeu à somme nulle. Et le conflit, depuis l'origine, est prisonnier de ce jeu à somme nulle. Et celui qui a le plus gros morceau dans le jeu, il a aucune envie de céder un morceau à l'autre, à une époque où les Arabes étaient 80 ou 85% de la Palestine entre leurs mains, ils n'allaient pas céder 1% à ceux qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, Israël, qui en contrôle en gros 70 ou 75 ou 80%, ne va pas céder un morceau. Je suis tout à fait d'accord sur la solution à deux États, mais je pense qu'elle est impensable sur le terrain. Elle est impensable sur le terrain parce qu'il y a 200 000 colons juifs à Jérusalem et 500 000 en Cisjordanie. Et tu ne vas pas les sortir. Donc moi je suis pessimiste depuis des années. Je ne veux pas me faire taxer de pro-palestinien, je veux me faire taxer de pessimiste. Ça fait des années que je dis que ça ne va pas, qu'on est parti comme une Irlande sur plusieurs siècles et que je ne vois pas de point de sortie depuis à peu près 2010, puisque c'est en gros la dernière négociation sérieuse, c'était aux alentours de 2008. Neuf après, il n'y a rien eu.
Oui, à la fin, l'Irlande, ça se termine bien.
C'est pas encore terminé.
Joseph?
Oui, merci beaucoup. Bah, écoutez, je voudrais répondre à la question que vous avez posée sur les acteurs. Mais avant, je vais rentrer un peu sur ce débat entre Henri et Dominique pour élargir un petit peu l'éventail des choses et ne pas le limiter au simple tête-à-tête palestinien-israélien, parce que je crois que dans un contexte, dans le contexte du Moyen-Orient, les choses sont plus larges. Il faut les remettre dans un contexte historique plus grand. Alors effectivement, d'abord, sur le plan émotionnel, tu disais, moi ça m'avait effectivement choqué, que tu avais été effondré, comme moi je suppose, en entendant ce fils qui est appelé. Et que donc les Israéliens, l'armée a récupéré ce portable dans lequel il disait « j'ai tué 10 juifs ». Alors effectivement, dans le langage du Hamas, c'est à mettre à son débit, l'idée d'Israélien est un petit peu ambiguë. Le Hamas s'est caractérisé par une charte extrêmement dure. Il y a deux chartes du Hamas, celle de 1987, dans laquelle il désignait les juifs comme l'ennemi, il citait même des versets coraniques dans sa constitution, il citait des hadiths du prophète, dont un hadith qu'on pense, un dit du prophète qu'on pense qu'il est apocryphe, mais ça faisait partie de la constitution dans lequel il disait, avant que ne vienne la dernière heure, donc un peu la dimension apocalyptique, tu verras certains se cacher derrière un arbre et une pierre. Et la pierre et l'arbre crieront, il y a un juif qui est caché derrière moi, viens et tue-le. Donc, mais le Hamas a changé, parce qu'effectivement là c'est une mutation des acteurs dont on peut parler. Donc ça c'était la charte de 1987. En 2017, on a une nouvelle charte, dans laquelle il dit, il ne reconnaît pas son affiliation aux frères musulmans, et il dit, pour nous, l'islam est une référence et reste une référence. Donc l'utilisation de l'idéologie musulmane, c'est le seul d'ailleurs, parce que l'OLP, représenté par la dimension la plus importante qui est le Fatah de Mahmoud Abbas, n'a pas cette logique-là de la référence, puisqu'ils tiennent absolument à avoir un orthodoxe, un prêtre orthodoxe, un pasteur protestant qui fait partie du conseil de l'OLP. Donc on se trouve dans le cadre du Hamas, dans un cadre extrêmement rigide sur le plan religieux, mais qui a quand même évolué avec cette contradiction qu'on ne peut pas résoudre et qui dit, je ne reconnais pas Israël, je ne renonce pas à la violence, c'est dans la charte du Hamas, mais je veux créer l'État palestinien sur le territoire de 1967. quid de l'existence d'Israël, je ne la reconnais pas. Mais je vais faire coexister un État palestinien musulman, et immédiatement il récupère la donne minoritaire en disant « Mais les Juifs et les chrétiens qui voudront vivre dans cet État seront protégés par la charia et par la loi de l'islam ». Et donc le Hamas, de ce point de vue, est resté le seul mouvement d'organisation parmi les organisations palestiniennes qui a fait du recours à la violence un absolu, qui n'est pas soumis à une négociation tactique qui pourrait faire abandonner des points. Et le Hamas, et c'est un autre point extrêmement important, mais qui pose la question de la solution, pas de reconnaissance de tout ce qui a été signé depuis 1993, c'est-à-dire le 13 septembre 1993, la reconnaissance, le pacte d'Oslo. Deux ans après, ce qu'on appelle Oslo II. Donc, pas de reconnaissance de tous les acquis, de toutes les discussions, de toute la division de la Palestine, de la Cisjordanie en trois zones. Bon, tout cela, tous les arrangements de sécurité, comme on dit, il ne les reconnaît pas. Donc, on est, et c'est là où je veux venir à ce point-là, dans un imaginaire symbolique qui n'est pas celui de l'OLP, mais qui est ce que j'appellerais au-delà des images, parce que j'ai été très touché par cette image que Dominique, que tu as rappelée tout à l'heure. Avant de venir, j'ai vu sur Al Jazeera, que je ne vous conseille pas de voir, parce que c'est la seule télévision qui donne à voir les morts tels qu'ils sont, immédiats. Les télévisions occidentales floutent. Al Jazeera ne floute pas. Et donc, on voit des cadavres d'enfants sortis, etc. Ce qui m'a ébranlé, et là, c'est un infirmier qui était interviewé en pleurs à la télévision d'Al Jazeera, qui disait « Moi, je n'arrête pas de recevoir des morts et des blessés, et pourtant j'ai toujours tenu le coup, je crois en Dieu, etc. » Et là, ceux que j'ai eu à soigner subitement qu'on m'a amené, c'était ma femme et mes trois enfants. Et donc, effectivement, le commentaire allait dans tout le sens de l'émotionnel, mais on peut comprendre cet émotionnel aussi, parce que je pense que vous intituliez notre rencontre ce soir par la raison et par le cœur. Bon. Mais il ne faut pas se laisser déborder par une logique passionnelle, bien entendu, une logique émotionnelle, mais il faut reconnaître le malheur des uns et des autres. Mais au-delà des images, je voudrais partir sur l'imaginaire. Parce que je pense qu'il y a un conflit des imaginaires. Tout à fait par hasard, Henri parlait de l'Irlande, ça lui faisait penser à la guerre de l'Irlande. Ça m'a fait penser à cette phrase de Karl Marx, qui faisait des piges dans les années 1858-60, quand il se transporte à Londres pour gagner sa vie. Et on lui demande pour, je pense que c'était le Time, de faire un article sur l'Irlande. Alors, le matérialisme dialectique et historique confronté à une question identitaire. Et Karl Marx a cette phrase formidable, fantastique, qu'on ne peut pas mettre dans sa bouche. Il dit, j'ai compris une chose, c'est que le poids des morts pèse très lourd sur le cerveau des vivants. Karl Marx. Le poids des morts pèse très lourd sur le cerveau des vivants. Et alors, je voudrais introduire une troisième dimension, parce qu'effectivement, la comparaison avec les massacres des Fellaga, bon, je pense au massacre de Philippeville, 1945, je crois, qui était absolument affreux. 55, pardon. Absolument affreux. Mais cet imaginaire-là, c'est au fond, le Hamas le convoque d'une certaine manière. Et si on le met dans un contexte plus large, que l'historien connaît très bien, c'est au fond de se dire que dans cette région, celui qui perd peut perdre absolument. Et donc l'attaque du Hamas contre Israël, mais Dominique l'a souligné, au fond remet en cause le credo fondamental du sionisme, qui est écrit noir sur blanc dans le livre que Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, publie à Paris, écrit à Paris et publie en avril 1896, Der Judenstaat, l'État juif, l'État des juifs, il y a un point d'interrogation sur tout ça. Mais il dit une chose, j'ai créé un Notstaat. Notstaat, un État refuge. Or, ce qui s'écroule le 7 octobre, c'est cet état refuge. Si on ne peut pas être, dit Théodore Herz à cette époque, on ne peut pas être en sécurité après l'affaire Dreyfus, en France qui est à la première à, comme on dit, émanciper les Juifs avec la Révolution française, c'est qu'on peut être libre nulle part. Il nous faut notre état refuge. Et ce qui s'écroule et qui ébranle la conscience israélienne et au-delà la conscience juive, et qui, Dominique, motive la mobilisation de ces fameux 350 000 réservistes. Je ne sais pas quel État peut faire appel à 350 000 réservistes en une semaine, dans le monde entier, venant d'Amérique du Sud, du Canada, d'Afrique, d'Europe, pour véritablement sauver l'État d'Israël. Donc c'est le Notstaat qui disparaît. Et pourquoi je dis cela? Parce que Israël, ou le peuple juif en Israël, n'est pas le seul à ressentir ce malheur existentiel, cette menace absolue existentielle de disparaître. Avant que l'État d'Israël ne soit créé, le 14 mai 1948, il y a eu le premier génocide du XXe siècle, si l'on peut dire, 19e, 20e. 1 500 000 Arméniens ont disparu. Donc voilà un peuple qui s'est évaporé. Et la mémoire arménienne s'est réveillée récemment avec l'épuration ethnique dans le Haut-Karabakh de 120 000 Arméniens chassés du jour au lendemain. Alors on peut discuter de savoir si la réaction des autorités arméniennes et du Haut-Karabakh ont été les bonnes. Mais quand on pense à cela, ils ont dit « Nous allions nous faire massacrer, nous avons préféré partir plutôt que nous faire massacrer dans le Haut-Karabakh » et il y a eu cela. Deuxième chose qui touche beaucoup les chrétiens, les maronites, mais pas seulement eux, et les Assyriens d'Irak. 1860, la France envoie, Napoléon III envoie une flotte pour aller au secours des massacres qui ont lieu dans la montagne libanaise et à Damas. 1929-1930, ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide assyrien, disparu. Daesh, qui pour les sunnites parle moins que pour les chrétiens et les minorités, les chiites ne sont pas une minorité, mais pour les minorités autres de l'islam que sont les chiites, et bien entendu, les adorateurs du diable, les yazidis. Et les chrétiens, bien sûr. On se retrouve dans une situation où, nous racontait l'évêque de Mossoul, avant qu'il ne passe pour massacrer les chrétiens, les gens de Daesh mettaient en rouge sur les portes le sigle N, Noun, en arabe, qui voulait dire Nasara, les Nazaréens, des adeptes du Christ. Donc il y a un choc des imaginaires où à chaque fois qu'un peuple subit ce traumatisme de la menace existentielle, il donne soit dans l'hubris, soit dans l'exagération, jamais dans « allons construire un plan de paix » parce que effectivement la mise est énorme. Et donc ce qui fait qu'aussi les acteurs se transforment et changent. Et notamment sur le plan des acteurs stratégiques, mais je change tout à fait de registre à ce moment-là. Pensez à un acteur important, à mon avis le plus important aujourd'hui, dans un contexte plus large, qui est l'acteur américain. On n'a jamais vu une telle mobilisation de la flotte américaine depuis 1945, même au large du Vietnam. On n'a jamais vu ça. Des sous-marins, des porte-avions nucléaires, etc. On réfléchit à une chose. Et je vais aller dans ton sens, Dominique. C'est un constat. Les Américains n'ont plus d'alliés dans cette région. Le dire, c'est... Bon, ça pourrait beaucoup choquer. Les Saoudiens se sont éloignés, ne sont pas tout à fait éloignés. Mais ils ont pris leur distance, ils discutent avec M. Poutine, négocient le prix du gaz avec M. Poutine, contrairement aux désidérata américains, américains. Les Chinois sont arrivés, l'Égypte et la Turquie sont en train de s'ouvrir tous azimuts à toutes sortes de partenaires. Qui est l'allié d'Israël? À part Israël, l'Amérique n'a plus d'alliés. Et donc, dans cette affaire-là, il y a non seulement une protection de l'allié israélien qui est indispensable pour le maintien de la stabilité du Proche-Orient et le maintien de la stabilité européenne. Parce que si les Américains n'étaient pas là, ne voyez aucune allusion à une chanson connue et célèbre, hein, je ne sais pas comment Israël pourrait penser sa survie dans un contexte de traumatisme stratégique, il n'y a pas d'autre mot. Et donc les acteurs changent, le Hamas a changé, les Américains changent, la Turquie joue un jeu absolument incroyable, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Dominique de ce point de vue.
Bon,
la guerre change les mentalités, et les mentalités sont changées par la guerre, enfin, je veux dire, et l'État est changé par la guerre.
On a encore un quart d'heure, on va passer quand même la parole à la salle. S'il y a des questions... Des questions dans la salle? Oui, madame, là-bas au fond à droite, enfin, au milieu à droite. Étienne. C'est bon? Non. Étienne par là. Et la dame en rouge là-bas au milieu de la...
Merci pour ce débat, hein, c'est absolument
messieurs.
Indispensable. Moi, je suis au-delà de ma sidération, évidemment, pour le massacre du 7 octobre. Je suis sidérée par le fait que les Israéliens aient laissé, d'une part, le Hezbollah s'armer jusqu'aux dents toutes ces années, et qu'ils aient laissé aussi le Hamas construire ses tunnels et s'armer aussi jusqu'aux dents, proportionnellement, donc, de l'autre côté. Voilà. Pourquoi ?
Et la question,
est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ?
Est-ce que moi, je dois répéter la question pour YouTube. Pourquoi est-ce que les Israéliens auraient laissé le Hamas, le Hezbollah, d'une part, et le Hamas, d'autre part, s'armer jusqu'aux dents comme ça ? Tu veux répondre ?
On est deux, mais vas-y.
Des réponses rapides.
Oui. Alors, rapidement, et pour aller à l'essentiel, on revient au terme d'hubris que j'utilisais au début de notre réunion. Et je crois que les Israéliens avaient d'autres priorités dans leur esprit. Et au fil des années... ces priorités devenaient toujours plus extrêmes et fausses. C'est-à-dire que le nationalisme de la terre et le nationalisme religieux poussaient à accorder la priorité au développement des colonies en Cisjordanie avec des budgets considérables sur toute autre considération. À l'extérieur, il n'y avait pas de problème. À l'intérieur, il fallait marquer notre, entre guillemets, notre territoire. Et il y a quand même, il y aura, après la guerre, une commission d'enquête qui sera faite et qui déterminera si, comme on le dit déjà aujourd'hui, Netanyahou a délibérément abandonné les colonies, les kibbutz de gauche qui se trouvaient au sud du pays pour concentrer tous ses efforts de protection pour les colonies de peuplement en Cisjordanie. Les premières, les kibbutz, étaient parfaitement légaux, reconnus par le droit international. Les seconds étaient parfaitement illégaux. Et donc, je crois qu'il y a là, peut-être, un élément de réponse à votre question.
Je ferai la même réponse très rapidement, plus rapidement que Dominique. Absolument. Merci. Moi, je distinguerai les deux cas. Mais effectivement, le fil conducteur, le fil rouge que Dominique a avancé est le bon. C'est-à-dire qu'avec la politique de Netanyahou, pendant des années, le grignotage de la Cisjordanie était le plus important. C'était un accroissement de la colonisation dans les territoires, essentiellement Jérusalem. Regardez la lutte sur les quartiers. Regardez la situation à Hébron aussi. C'était des batailles de quartiers. Hein. On ne parle pas de colonies. Et bien entendu, en Cisjordanie, à proprement parler, les colonies. Deux choses. Le Hamas a été considéré comme véritablement une prison à ciel ouvert, avec une barrière, une clôture métallique qui a coûté une somme absolument... Pardon ?
Gaza.
À Gaza, pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit. Et donc là, effectivement, il y avait une espèce d'oubli, un oubli carcéral. On enferme la population et on oublie, et c'est bien tenu, et on n'en parle pas. De toutes les manières, on n'en veut pas. Dans les dernières déclarations de M. Netanyahou aujourd'hui disent qu'on pourrait peut-être s'occuper autrement et avoir un autre regard sur ça. Là, si le Hezbollah, lui, relève d'autre chose. Le Hezbollah, il y a eu une grande guerre, grande entre guillemets, de 33 jours, en 2006. Les Israéliens sont entrés dans le sud libanais. Bon, ils n'ont pas réussi à réaliser tous leurs objectifs, ils sont partis. Et ils sont arrivés à la conviction, quand on discute avec les stratèges ou les théoriciens de la guerre dans ce pays, qu'au fond, le Hezbollah est extrêmement dangereux. Mais le Hezbollah a un patron. Et ce patron s'appelle l'Iran. Et donc, avec les Américains, ils disaient, bon, on va s'entendre avec un jour, on va... Et l'administration démocrate, Biden, est extrêmement ouverte à la discussion, contrairement à celle de M. Trump, à un moment donné. Donc, quand on dira au patron, quand on arrivera à un accord avec l'Iran, immédiatement, le partenaire junior va immédiatement s'écraser. Et ce n'est pas le cas, parce que Nasrallah, aujourd'hui, a une telle aura dans le monde arabe, dans le monde chiite. Parce que, pour aller dans ton sens, les Saoudiens, les Égyptiens, tu signalais que la fusée en provenance des Houthis du Yémen avait été abattue et c'est confirmé par la marine saoudienne, enfin aidée un peu par les Américains quand même. De ce point de vue, l'Égypte est anti-Hamas, l'Arabie saoudite est anti-Hamas, même les Émirats arabes unis aujourd'hui, il n'y a que le Qatar qui est un peu la brebis noire dans cette affaire. Donc il y a une opposition qu'on sent aussi dans les réseaux sociaux où on voit des critiques faites à Nasrallah. Dans ton dernier discours, après avoir incité les Palestiniens à faire la guerre, au bout de 31 jours, tu ne viens pas à leur aide. Tu les as laissés tomber, tu les as trahis. Ça aussi, l'après-guerre va être grosse de ces discussions sur le positionnement du Hezbollah. Chiite, qui a lâché une population sunnite, puisque les Palestiniens de Gaza sont sunnites et que le Hezbollah, c'est les chiites pro-iraniens. Chiites libanais pro-iraniens.
Une autre question au milieu là.
Merci pour ces échanges. Vous avez aussi des propos pessimistes hein, sur l'avenir, en citant que ce jeu est à somme nulle. Autant on est sidéré par les actes terroristes du Hamas, on se dit aussi que dans l'avenir, il faut aussi que la population palestinienne puisse espérer. Alors comment est-ce que Israël peut être amené à évoluer sur son attitude et faire en sorte aussi à permettre une évolution des territoires palestiniens, ce qui, pour l'instant, est assez peu fait.
Je ne peux que maintenir mon pessimisme fondamental. Je ne peux pas aller au-delà. Bon, vous savez, les historiens, on l'a dit tout à l'heure, ils sont excellents pour prédire le passé. Pour l'avenir, c'est plus difficile. Évidemment, tout peut changer, mais... on a quand même une tendance de fond dans les deux sociétés qui va vers du nationalisme religieux. Et un nationalisme religieux qui accepte peu ou pas de concessions. Et autant j'avais espéré en Oslo, j'avais même espéré dans les années 2000, Mais disons que depuis, c'est un pessimisme. C'est les situations d'enfermement dans un corps à corps. Et je ne vois pas comment on peut séparer les deux peuples qui sont pris dans ce corps à corps.
Alors, Henri, les géopolitologues sont-ils
un bémol sur ton pessimisme. Donc, sur le plan psychologique, je crois qu'il y a, c'est cassé. La cassure est entérinée et je ne pense pas que les peuples, en tout cas les populations, vont oublier facilement. Mais il s'est créé à partir des accords d'Abraham, à partir d'un carré qui serait celui de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis, qui sont ouverts sur la négociation. Peut-être, avec la pression de l'administration Biden sur Israël, qui n'est peut-être pas en état de négocier indéfiniment et de ne pas écouter indéfiniment les avis des Américains, il se créera peut-être une dynamique de recomposition ou de reconnaissance des réalités, notamment cette utopie qui s'appelle les deux États, à partir de laquelle il faut commencer à réfléchir, même si son application n'est pas dans l'immédiat. Mais il n'y en a pas d'autre. Les Palestiniens ne renonceront jamais à avoir un État. Ça, c'est quelque chose que les Israéliens comprendront peut-être un jour.
Alors, je crois qu'il faut, comme disait Benedetto Croce, avoir le pessimisme de la raison, et l'historien parmi nous l'a démontré, et l'optimisme de la volonté. Moyennant quoi, il y a une date qui va être décisive. C'est celle de novembre 2024. Qui va être élu président des États-Unis? Si Trump repasse, il va encourager les éléments les plus radicaux de la société israélienne. Si Biden ou un autre démocrate repasse, les possibilités sont plus grandes. Et je crois, et dans le sens de ce que disait Joseph, qu'on peut imaginer que les accords d'Abraham repensaient fondamentalement, faisant de la question palestinienne la question clé, peuvent servir de levier. La porte a été entrouverte, elle peut se refermer ou elle peut s'ouvrir un peu plus. Et pour s'ouvrir un peu plus, il y a l'argent de l'Arabie Saoudite, même si à Riyad on n'est pas volontaire pour reconstruire Gaza. Il y a les pressions américaines, quand même, ils sauvent la mise à Israël, et il y a aujourd'hui la majorité de la société israélienne. C'est-à-dire qu'on oublie que la popularité de Netanyahou s'est brutalement effondrée depuis le 7 octobre 2023, et il y a eu une inversion totale en termes de popularité, entre Benny Gantz, le chef militaire, modéré, entre guillemets, et Netanyahou. Est-ce que cela suffira? Je crois aussi que les deux scénarios sont possibles. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut considérer que la radicalisation de la société israélienne va devenir plus grande. Après ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut espérer, à l'inverse, que la raison réunira les Israéliens qui manifestaient par centaines de milliers pour leur démocratie, l'emportera. Donc il y a théocratie irrationnelle, raciste et espoir démocratique classique. Biden incarne cela. Et je crois que dans ton propos, Joseph, tu soulignes l'idée que Biden se rend compte qu'il n'a qu'un seul allié dans la région. C'est tout à fait vrai. Mais je crois qu'il y a une dimension philosophique, culturelle, je dirais presque religieuse. Biden est l'héritier de Truman. de l'internationalisme du Parti démocrate américain. Et dans cet internationalisme, c'est un homme d'une génération pour qui l'alliance avec Israël a toujours été incontournable. Et je crois que c'est très important de voir que son âge est un problème, mais son âge lui permet de comprendre ces choses. Et en même temps, et je terminerai par là, le fait qu'il ait soutenu si clairement, sans aucune ambiguïté, l'État d'Israël, fragilise le candidat. Car une partie des démocrates, les plus à gauche, les plus radicaux, les plus woke, vont s'abstenir de voter pour lui. Et vous avez, au sein du Parti démocrate, l'équivalent de LFI en France. Et ils se font entendre très fortement.
Henri ?
Juste un petit point, juste pour réaffirmer mon pessimisme. Je ne maintiens après mes deux amis optimistes.
Optimiste de la volonté.
Ton diplomate saoudien, Joseph, quand il est allé à Ramallah, ça vous avait très bien passé. Puis il a dit, je voudrais prier à Al-Aqsa. Et on lui a dit, il vaut mieux pas. Parce que si tu vas à Al-Aqsa, tu vas te faire caillasser. Hein? Et il n'est pas allé prier à Al-Aqsa. Et moi, ce que j'ai peur dans l'avenir, ça c'est une prédiction pour une fois, je vais essayer, c'est de voir un gros clash sur l'esplanade des mosquées dans les semaines ou les mois à venir. Avec beaucoup de morts et une insurrection musulmane généralisée parce qu'on aura atteint l'un des grands sanctuaires de l'islam. Et ça, c'est quelque chose que je répète depuis les années 90. Donc,
c'est une dimension qu'on n'a pas vue et qui a beaucoup favorisé le Hamas et le soutien au Hamas, c'est que les expéditions, si j'ose dire, sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées de Ben Gvir, de Bezalel, de Smotrich, ont véritablement choqué les musulmans. Elles ont remis en question des accords ancestraux. Alors, je ne dis pas ancestraux, puisque ça remonte à 1858, sur la répartition des lieux saints et l'accès aux lieux saints établis par la sublime porte à cette époque-là et qui faisait un peu office de code de bonne conduite sur l'utilisation des lieux saints. Et là, le gouvernement Netanyahou a laissé faire de manière vraiment impardonnable, jouant sur le sentiment religieux le plus extrême.
Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Théophile qui va poser un certain nombre de questions qui nous permettront de continuer à réfléchir. Mais malheureusement, on doit arrêter maintenant. Merci en tout cas pour votre participation. Vas-y Théophile.
Bon bien, parce que c'était peut-être pas l'objet de la soirée, mais juste parce que vous venez de mentionner LFI et cette dimension, enfin, la gauche radicale de l'électorat de Biden qui risque de se retourner contre lui. À l'horizon des élections en 2024. En France, c'est très notable ce qui se passe. Déjà, le soupçon récurrent d'antisémitisme dans la vie politique semble avoir clairement changé de camp. J'ai lu encore tout à l'heure que les commentateurs britanniques qui commentent la politique française disent finalement, c'est pas tant le Rassemblement National avec son passé qui menace la démocratie française, c'est peut-être LFI. Et voilà, je reste avec cette question du lien entre antisémitisme et menace de la démocratie, qui est vraiment un serpent de mer des sociétés occidentales. Lié à cette question, vous avez dit, Dominique, que c'est très très frappant la formule que vous avez employée, dans le soupçon de deux poids deux mesures, leurs morts sont nos morts, enfin les morts israéliens sont nos morts. Et c'est clair que Israël est chevillé au corps de l'Occident et de l'Europe, de par son histoire. Et en même temps, il y a l'histoire que vous avez racontée, de la maman de M. Nosseibeh, avec cette fenêtre et l'Européen qui pousse le Juif qui va écraser le Palestinien. Donc il y a ce paradoxe de l'existence même d'Israël dans son rapport à l'Europe, qui à la fois, c'est une extension organique de l'Europe, et en même temps, une volonté de se défaire de cette part juive qui est constitutive de l'identité européenne.
Je peux, 30 secondes. J'ai été, le 11 octobre, auditionné à sa demande par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on peut voir ça sur la chaîne parlementaire, etc. Et j'ai un échange assez vif à un moment donné avec Mathilde Panot, qui est la porte-parole.
Présidente du groupe LFI.
La présidente du groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, elle tient le discours qu'on peut attendre d'elle, et à un moment, elle dit « Jamais le général de Gaulle n'aurait adopté la politique suiviste président Macron à l'égard des États-Unis. » Alors, le président du groupe républicain l'a interrompue en lui disant qu'elle n'avait pas tellement de légitimité à parler au nom du gaullisme. Et je lui ai dit que sa boussole idéologique lui a fait perdre de vue une boussole éthique et que le comportement de la France et des autres pays occidentaux était bien entendu la réaction à la barbarie absolue. Donc voilà, et ce qui était intéressant aussi, parce que ça répond à votre question, la représentante du Rassemblement national, plus pro-Israël, plus pro-juif, on meurt. C'est-à-dire qu'il y avait eu un renversement complet, parce que ça lui permettait de taper sur l'islamisme. Et donc il y avait, en quelques minutes, on avait une leçon comme une loupe agrandissante qui montrait toute la complexité de ces mouvements.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Voilà, juste deux mots. Un, pour vous annoncer le thème retenu pour les prochains mardis d'éthique publique, le 5 décembre, qui sera COP28, deux points, des raisons d'espérer, point d'interrogation. Donc on change complètement de sujet pour revenir sur le sujet de l'écologie, pour rappeler que le pape François sera présent à la COP28. Et puis le deuxième point, c'est que je vais vous rappeler que si vous appréciez nos soirées, vous avez à la sortie de cet amphithéâtre des urnes dans lesquelles il ne s'agit pas de voter, mais il s'agit de cotiser, si vous le souhaitez, pour soutenir nos actions. Merci infiniment.